VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 avril 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En Côte d'Ivoire, les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel ont été condamnés à de lourdes peines de prison.
En République démocratique du Congo, persistance des divergences au sein du rassemblement pendant que Bruno Tshibala poursuit ses consultations pour la formation de son gouvernement.
Au Niger, appel des associations des droits de l'homme et de l'opposition pour la réouverture du campus universitaire, fermé lundi après une manifestation d'étudiants.
Nouvelle mise en garde du président Trump à la Corée du Nord, qui s'apprêterait, dit-on, à procéder à un nouveau test nucléaire.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le général Bruno Dogbo-Blé, ancien chef de la garde républicaine, a été condamné hier à 18 ans de prison par la cour d'assises dans l'affaire des disparus du Novotel d'Abidjan. 4 personnes, dont 2 Français, enlevées et tuées en 2011 en pleine crise ivoirienne. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le commissaire Osé Logué, présenté par l'accusation comme celui ayant achevé l'un des 2 Français enlevés, a écopé de 20 ans de prison. Les 2 adjoints du général, les colonels Jean Abi et Léopold Okoumodi, ont eux été condamnés à 18 ans de prison. 2 membres du commando ont respectivement écopé de peines de 10 ans et 6 ans de prison, alors que les 4 autres accusés ont été acquittés. Le 4 avril 2011, au plus fort de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, un commando a fait irruption à l'hôtel Novotel d'Abidjan, capitale économique en proie au combat. Il aurait emmené son directeur, le français Stéphane France Diripel, son compatriote Yves Lamblin, directeur général de CIFCA, et 2 de leurs collaborateurs. Selon l'enquête, les 4 hommes ont été conduits au palais présidentiel, torturés et tués. Leurs corps ont été ensuite jetés dans la lagune d'Abidjan. Le corps d'Yves Lamblin est le seul à avoir été formellement identifié. La mort des 3 autres victimes a été établie sur la base de témoignages et d'indices.
En République démocratique du Congo, les divergences continuent au sein du Rassemblement, principale coalition de l'opposition, alors que le nouveau Premier ministre, Bruno Tshibala, poursuit ses consultations pour la formation de son gouvernement. Partisans de Moïse Katumbi et fidèles de Félix Tshisekedi ne sont plus sur la même longueur d'onde, nous dit Eddie Isango.
Un communiqué signé Pierre Lumbi, président du comité des sages de l'aile dirigé par Félix Tshisekedi, est formel. Les rassemblements ne participera pas au gouvernement dirigé par Bruno Tshibala. Monsieur Lumbi, issu du G7, plateforme qui soutient Moïse Katumbi, rejette les consultations que mène Bruno Tshibala. Pour lui, le président Joseph Kabila a violé l'accord du 31 décembre obtenu sous la médiation des évêques. Pourtant, un autre courant de cette même aile du rassemblement, fidèle à Félix Tshisekedi, porte au grand jour les malaises qui couvent dans les camps. Jean-Pierre Lisanga-Bonganga, proche de Félix Tshisekedi, a dénoncé hier les dictats des katumbistes. Avec un groupe d'autres membres de la coalition qui se réclament être tshisekédistes, il reconnaît que la nomination de M. Tshibala s'est faite sur base de l'accord du 31 décembre, mais exige la signature des arrangements particuliers avant toute consultation. Bruno Tshibala, soutenu par une autre branche du rassemblement conduite par Joseph Olingankoy, dit tendre les mains à tout le monde.
Au Niger, les associations des droits de l'homme et l'opposition ont demandé la réouverture du campus universitaire, fermé lundi après une manifestation d'étudiants. Des détails avec Solange Niamoulissa.
Un collectif d'organisations de la société civile exige la réouverture du campus et la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées. La Commission nationale des droits humains demande elle aussi au gouvernement la réouverture immédiate du campus, tout comme un front de l'opposition politique nigérienne. Lundi à Niamey, des centaines d'étudiants avaient manifesté, paralysant la circulation à l'aide de pneus brûlés, de troncs d'arbres et de blocs de pierre. D'après un bilan officiel, plus de 300 personnes ont été interpellées, dont une 50aine libérées et plus de 100 blessées. Les étudiants affirment qu'une personne a été tuée. Selon le syndicat Union des scolaires nigériens, Mala Bagalé, étudiant en 3e année de sociologie, est décédé après avoir été atteint par une grenade lacrymogène.
3 ans déjà depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Le gouvernement d'Abuja a affirmé hier qu'il négociait avec Boko Haram pour obtenir leur libération. Anastasie Toudiech.
Le gouvernement travaille à la libération des écolières de Chibok, a affirmé Garba Shehu, porte-parole de la présidence. Il a ajouté que les discussions sont en cours avec l'aide de certains pays, sans les nommer. À Abuja et à Lagos, le comité de soutien Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, a prévu des rassemblements pour marquer le 3e anniversaire de l'enlèvement des lycéennes de Chibok, qui en son temps avait soulevé un tollé mondial. Le 14 avril 2014, 276 écolières ont été kidnappées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper peu après le rapt et 195 sont toujours portées disparues, dont certaines ont eu des enfants en captivité. En octobre 2016, une vingtaine de jeunes filles ont été libérées grâce à l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge et du gouvernement suisse.
Des dizaines de soldats américains ont été déployés à Mogadiscio pour entraîner et équiper les forces de la Somalie et de l'AMISOM, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, qui se battent contre les extrémistes d'Al-Shabaab. C'est ce qu'on dit à la Voix de l'Amérique des officiels militaires américains. À part une petite unité de conseillers spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, l'arrivée de ces troupes constitue la première présence de forces américaines en Somalie depuis le retrait des États-Unis de l'intervention des Nations Unies en mars 1994, 5 mois après que des miliciens eurent tué 18 membres des forces spéciales américaines lors d'une bataille qui a inspiré le film Black Hawk Down.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a lancé une nouvelle mise en garde à la Corée du Nord, mise en garde contre tout nouveau test nucléaire alors que se multiplient les informations sur une telle possibilité à l'occasion des cérémonies commémoratives de l'anniversaire de naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung. La Corée du Nord est un problème et ce problème, nous le réglerons, a dit M. Trump hier à la Maison-Blanche. Bien que ses propos aient été immédiatement interprétés comme une menace d'action militaire, le président américain a ajouté que la Chine travaille très dur pour désamorcer cette crise internationale et qu'il espère que la diplomatie chinoise sera efficace. Auparavant, Donald Trump avait dit que les États-Unis étaient prêts à résoudre la crise nord-coréenne sans la Chine si nécessaire.
Un avion américain a largué hier la plus puissante bombe dans l'arsenal américain, une bombe de 10 000 kilos, surnommée la mère de toutes les bombes, sur une série de grottes utilisées par les combattants du groupe État islamique dans la province de Nangarhar, dans le nord-est de l'Afghanistan. Aucun détail pour le moment sur les dégâts ou victimes éventuelles de l'explosion massive causée par cette bombe, développée il y a plus d'une décennie, mais qui n'avait jamais été utilisée au combat. Ici à Washington, le président Trump a dit que cette frappe contre les extrémistes du groupe djihadiste avait sa pleine approbation. Il n'a pas répondu à une question sur l'objectif de la mission, mais a laissé entendre qu'elle pourrait avoir pour but d'envoyer un message fort à la Corée du Nord, qui s'apprêterait donc à procéder à un test nucléaire.
Le président syrien Bachar al-Assad continue d'adopter une attitude de défi au milieu des accusations selon lesquelles son armée a lancé l'attaque chimique meurtrière de la semaine dernière contre Khan Sheikhoun. Des ONG signalent aussi que ses forces, avec la Russie, ont intensifié leurs attaques contre les civils dans un défi clair à la communauté internationale. Dans une interview exclusive à l'AFP, depuis la mort de dizaines de civils dans l'attaque chimique du 4 avril, M. Assad a qualifié cette accusation de fabrication à 100% visant à justifier les représailles militaires américaines du 7 avril. Pour l'administration américaine, il n'y a pas de doute que le régime de Damas est responsable de ce crime de guerre et tente maintenant de semer la confusion.
Mike Pompeo, le nouveau directeur de la CIA, s'en est vivement pris au site Wikileaks dans ses premiers commentaires publics en qualifiant le site de Julian Assange d'organisation de renseignement hostile, déterminée à causer du tort aux États-Unis, tout comme les organisations terroristes. Il est temps, a-t-il dit, de considérer Wikileaks pour ce qu'il est vraiment, à savoir un service non étatique de renseignement hostile, souvent aidé par des acteurs étatiques comme la Russie. Le site, a poursuivi le directeur de la CIA, se concentre de manière écrasante sur les États-Unis tout en cherchant le soutien de pays et d'organisations antidémocratiques. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Abdourahmane Dia.
Trois organisations non gouvernementales estiment que des zones d'ombre persistent dans les premières déclarations publiques des paiements d'entreprises extractives françaises, notamment Areva et Total, aux pays producteurs. Selon l'étude, Areva aurait payé au Niger une redevance inférieure en 2015 par rapport à 2014, privant cet État de 15 millions d'euros de recettes. Par ailleurs, le prix de l'uranium nigérien exporté serait largement sous-évalué par la filiale locale d'Areva. Le cacao a atteint hier son plus bas niveau depuis un mois à 1562 livres sterling la tonne à Londres et à 1940 dollars la tonne à New York et s'approchait dangereusement de son plus bas niveau de l'année. Une situation qui devrait inquiéter davantage les producteurs ivoiriens qui demandent depuis des mois la hausse du prix d'achat au niveau local. Des dizaines de milliers de tonnes sont en souffrance au port d'Abidjan et de San Pedro. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao qui contribue à hauteur de 15% au produit intérieur brut. Au Nigeria, l'émission d'obligations vertes prévue pour ce mois a été reportée jusqu'à ce que le budget 2017 soit adopté. Le Nigeria cherche 65,55 millions de dollars pour financer des projets à faible émission de carbone ainsi que le développement des énergies renouvelables. Enfin, le gouvernement angolais veut lutter contre les fuites de capitaux. Luanda prévoit l'application d'un décret exigeant des importateurs la souscription d'une assurance locale. L'Angola craint un épuisement de ses réserves de change.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Silvio Berlusconi abandonne le titre et la charge de président de l'AC Milan.
Ce club italien est désormais aux mains des Chinois comme nouveau propriétaire. La vente a eu lieu hier pour 740 millions d'euros. Berlusconi a cédé avec douleur et émotion, dit-il, avouant que le football moderne implique, pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial, des investissements et des ressources que sa famille seule ne peut plus assumer. L'ancien entraîneur Arrigo Sacchi a salué l'amour pur de Berlusconi pour son ancien club, tandis que l'ancien capitaine Franco Baresi, qui a fait toute son immense carrière au Milan, a lui reconnu un peu de tristesse.
En Espagne, 4 mois de prison pour 8 supporters de Leicester.
Ils sont condamnés pour des désordres à Madrid en marge du match entre l'Atlético et leur club en Ligue des Champions. Ils ont quand même de la chance, Idrissa, car en Espagne, les peines inférieures à 2 ans ne sont pas exécutées et ces peines sont équivalentes donc à de la prison avec sursis.
JO 2024, la session du Comité international olympique maintenue à Lima.
Tout à fait, Idrissa. Le monde entier aura les yeux rivés sur Lima. Cette 130e session devra désigner la ville hôte des Jeux olympiques 2024 entre Paris et Los Angeles et se tiendra bien à Lima au Pérou du 13 au 17 septembre prochain.
Dopage, la Fédération internationale d'athlétisme déçue par le peu de progrès de la Russie.
Le dernier rapport de l'instance indique que Moscou n'a pas réalisé de grands progrès dans sa lutte antidopage. C'est notamment dans les secteurs clés que sont les contrôles, la capacité à avoir accès au passeport biologique, le problème des villes fermées, le fait que des entraîneurs dans le système opaque continuent d'exercer. L'athlétisme russe est privé de compétition depuis le 13 novembre, le sera au moins jusqu'en novembre 2017. Il a ainsi été privé des JO 2016 à Rio et ne sera pas au départ des Mondiaux 2017 à Londres. Les athlètes russes ont la possibilité cependant de s'aligner sous drapeau neutre sous certaines conditions strictes.
NBA, record de fréquentation en 2016-2017 à 22 millions de spectateurs.
Record battu pour la 3e année consécutive. Selon la NBA, le taux de fréquentation par match a dépassé pour la 13e année de suite les 90% avec 94%. Le nombre de matchs disputés à guichet fermé s'est établi à 723, égalant le record de 2015-2016. Un autre signe, Idrissa, du succès du championnat de basket le plus relevé de la planète.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les retraités civils et militaires ont organisé hier à N'Djamena un sitting devant la Caisse nationale des retraités du Tchad, la CNRT. C'était pour réclamer le paiement de 4 trimestres d'arriérés de leur pension. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
C'est le cri de désespoir des retraités civils et militaires ce jeudi 13 avril 2017 où la température affichait 40 degrés à l'ombre à N'Djamena. Hommes et femmes bravent cette chaleur accablante en hurlant à tue-tête au visage froissé sans être entendus par les responsables en charge de la gestion de leur caisse. Ils exigent le paiement des 4 coupons pour un montant d'environ 20 milliards de francs CFA ou rien. Le coup de gueule de quelques-uns.
Le président de la République, il est militaire aussi comme nous d'autres. Pourquoi il nous rejette? On a combattu pour ce pays. Le moment qu'on combattit, il était là avec nous. Il ne faut pas qu'il nous exploite. Il faudrait qu'il nous paye 4 coupons à la fois. Ni 2 tranches, non. Moi, je suis un enseignant. J'ai mis 33 ans avant d'être retraité. Ce n'est pas 33 jours.
Il y a des veuves qui gagnent 29 400 francs. Avec ça, on leur donne un coupon. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour une année là? Actuellement, nous sommes devenus des mendiants. Nos enfants ne font pas l'école. Ils sont devenus des délinquants. Les voleurs que vous les voyez dans les rues, là, ce sont les enfants des veuves. Le président de la République, il a bien dit. Il ne veut pas que les retraités, les veuves pleurent. Et actuellement, nous sommes en train de pleurer.
On a FSI, il doit nous donner. Pourquoi il nous refuse? La vie humaine, il connaît. Il ne devrait pas nous jouer de telle sorte. Mais...
Le président du comité de suivi du dossier des retraités civils et militaires, colonel Ngaru Toumadi Léon, explique les démarches entreprises et les propositions faites par les responsables de la caisse.
Nos autorités de la caisse, ils ont écrit au ministre que les 2 coupons de 2016, là, ils veulent considérer comme arriérés. Or, que ça fait 1 an que nous sommes en train de souffrir. Donc, nous, on a dit, si c'est ça, ils ne nous rendent pas service. Donc, nous maintenons notre position jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction. Le pays a trouvé 300 milliards qui sont en train de payer les civils. Pourquoi pas nous? Les 17% qu'ils ont versés, ça fait 900 millions. Ces 900 millions ne peuvent pas satisfaire nos besoins. Pour un trimestre, il faut 4 milliards 500 millions. Mais pour 2 trimestres, il faudrait 9 milliards.
Pour une fois au Tchad, une manifestation pacifique n'a pas dégénéré. Les agents de l'ANS, Agence nationale de sécurité, et des éléments de la gendarmerie et de la police nationale postés tout autour de la Caisse nationale des retraités du Tchad n'ont pas utilisé des moyens de l'État pour les disperser. Pour les observateurs de la vie politique, ces manifestants, dont certains sont rattrapés par le troisième âge, sont comme des anges qu'il faut savoir les traiter. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La Centrafrique peine toujours à se relever du conflit consécutif en 2013 au renversement de l'ancien président François Bozizé. Les affrontements ont provoqué des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés, plongeant le pays dans le chaos. Selon Médecins sans frontières, le conflit s'intensifie avec de nouveaux foyers à travers tout le pays. Blanche Sanou a joint Augustin Mazikou, référent médical en Centrafrique.
La situation en Centrafrique est en train de se détériorer de plus en plus. Les conflits sont en train d'aller atteindre, joindre même les milieux qu'on pensait qui étaient plus calmes, là où il n'y avait pas de conflit. Ces milieux-là sont aussi affectés par les conflits et nous sommes en train de vivre des villages qui sont en train d'être brûlés par des groupes armés. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de malades qui sont blessés. Nous recevons aussi des malades qui ont été beaucoup traumatisés par la situation qui se passe dans ces pays-là.
Et quel est l'impact de ces conflits sur la population?
C'est que la population est en train de souffrir sérieusement. Nous sommes sur le terrain avec la population dans nos projets médicaux. Alors, nous remarquons que la population est en train de souffrir beaucoup. Il y a premièrement les déplacements de la population. Lorsque un village est attaqué, la population se déplace de ce village vers la brousse ou vers le village voisin pour se protéger, pour prendre soin d'eux-mêmes. Nous voyons des malades que nous recevons dans nos hôpitaux qui sont blessés par ces conflits-là, soit par la violence, soit en train de fuir, ils étaient tombés et ils sont blessés, soit ils ont été tirés par une balle, ainsi de suite. Nous avons reçu d'ici là, depuis novembre, au moins 168 personnes blessées par balle.
Vu l'intensification des conflits, comme vous dites, que fait MSF concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, nous sommes en train de prendre soin de tous ces gens-là. Nous avons des malades qui viennent par eux-mêmes, soit la population ou les amis ou les voisins les amènent dans nos centres de santé et nous prenons soin de ces malades-là. Mais ces soins-là ne sont pas donnés à tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils sont loin et du fait qu'ils sont très blessés, ils ne peuvent pas arriver à nos centres. Donc c'est de cette manière-là, s'il y a la paix, nous pouvons nous-mêmes accéder à ces endroits-là. Parfois, nous ne pouvons pas accéder à ces endroits-là pour avoir accès aux malades et les malades ne peuvent pas accéder là où nous sommes.
Que faut-il faire, à votre avis, pour stopper l'hémorragie?
Nous voulons peut-être que la communauté internationale puisse faire appel à tous les groupes qui sont en train de se battre dans ces pays-là. Ils appellent la paix pour ces pays-là. Parce que si ces groupes-là peuvent mettre la paix, la population ne va pas souffrir. Dans toute cette situation, ceux-là qui souffrent, c'est la population. Ce ne sont pas ces groupes-là qui sont en train de se battre.
Augustin Mazikou, référent médical en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Mettre fin au monopole des compagnies étrangères dans l'industrie d'aliments pour bébés, c'est l'objectif de Pascaline Nandé, une jeune entrepreneure camerounaise. Elle propose la première alternative commerciale à ce business très lucratif. Le point avec Michel Joseph.
Pascaline Nandé est une entrepreneure camerounaise avec une vision, celle de s'imposer sur le marché des céréales pour bébés. Son produit, des Olac, est fabriqué localement à base de soja, de blé, de fruits, de lait et de sucre. Les Olac se veut une alternative aux marques bien connues, mais importées. Pascaline Nandé.
À 6 mois, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas lui offrir les céréales qu'on vendait sur le marché. Je parle de céréales instantanées parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel il devient insuffisant. Alors, lors d'un de mes voyages dans mon village, je me suis aperçue que les sœurs de mon village grillaient du blé qu'elles redistribuaient aux enfants de la communauté pour les aider à croître normalement. Et puis, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, à partir de ça, on peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'après des expériences et expériences, ce blézola qui est né.
Au Cameroun, environ 1,2 million d'enfants accusent un retard de croissance et 45% des décès d'enfants sont liés à la malnutrition. Et Pascaline travaille avec des cliniques pour enfants à Douala. Si les affaires marchent, elle peut réaliser environ 1200 dollars de bénéfices par mois. Mais Pascaline reconnaît qu'il y a beaucoup de difficultés à surmonter.
Les difficultés sont très énormes parce qu'il y a d'abord un problème d'équipement. Je n'ai pas assez d'équipement pour produire. J'ai commencé à vendre par le porte-à-porte, c'est-à-dire j'allais d'un domicile à un autre pour proposer, ce qui n'était pas facile. Le packaging était dans du plastique transparent. La sous-traitance en matière d'équipement était à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu amélioré, mais il reste toujours ce grand besoin en équipement pour pouvoir produire en grande quantité et répondre à la demande parce qu'il a du marché, il a du potentiel.
Pascaline Nandé n'offre pas son produit qu'aux cliniques pédiatriques. Elle contacte aussi les mères qui y trouvent aussi leur compte, comme Nadège.
Premièrement, j'aime le soja parce que j'ai entendu parler du soja. Je me suis amenée vers là, j'ai acheté, j'ai dégusté. J'ai aimé son parfum, c'était bien. J'ai goûté, j'ai fait manger à l'enfant. Elle a aimé, elle prend sans problème.
L'aventure Blézolac a commencé il y a 5 ans. Aujourd'hui, Pascaline Nandé vend 150 kg par semaine, donc une part de marché encore très modeste. Mais elle espère agrandir son business en introduisant d'autres céréales très nutritives pour accroître la variété et l'offre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin à 13 ans de présence de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. L'ONU entend remplacer la MINUSTAH par une force de police plus restreinte, composée de 7 unités d'environ 1275 policiers au total. Cette force de police est également destinée à être graduellement réduite sur 2 ans au fur et à mesure que la police haïtienne sera formée. Pour une réaction, Éric Maniraktiza a joint à Port-au-Prince le porte-parole de la présidence, Lucien Jura.
Ce n'est nullement une surprise pour la présidence dans la mesure où c'est une décision qui a été discutée, qui a été négociée entre l'État haïtien et les Nations Unies via la MINUSTAH. Donc il était entendu déjà que nous voulions aller vers un retrait progressif des troupes de la MINUSTAH pour qu'il y ait un accompagnement au niveau de la police des Nations Unies jusqu'à ce que les forces de police haïtiennes puissent prendre contrôle totalement de la sécurité du pays. Donc cette information n'est pas nouvelle pour nous. Cette résolution des Nations Unies, c'était déjà prédéfini, c'était établi que nous allions vers là. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que l'État haïtien arrive à prendre en charge totalement la sécurité du pays à travers les forces contenues dans la Constitution haïtienne. Que les Nations Unies nous aient accompagnés durant toutes ces années, c'est très bien. Et nous leur disons merci d'ailleurs pour cet accompagnement. Qu'elles continuent à le faire à travers l'entité de police qui va continuer à assister la police nationale d'Haïti, c'est très bien, nous leur disons merci, mais tout en ayant à l'esprit aujourd'hui d'arriver à une prise en charge complète de la sécurité nationale par des troupes 100% haïtiennes.
Quand est-ce que vous pensez y parvenir?
Le plus rapidement sera le mieux, mais vous savez, la police nationale d'Haïti aujourd'hui souffre d'un déficit d'effectifs encore. Il faut que cette police ait l'effectif adapté à la sécurité, à la prise de sécurité nationale. Il faut que nous soyons suffisamment équipés également. Le retrait des soldats de la MINUSTAH, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il faut aller vite, mais il faut aller surtout bien en besogne. C'est la conjonction de la vitesse et du savoir-faire qui nous conduira vers les objectifs tant souhaités. Aujourd'hui, un pas important a été franchi pour les autres pas ou l'autre pas qui doit nous amener au départ définitif des Nations Unies au niveau de l'assistance au niveau du corps de police. C'est à venir et l'administration du président Jovenel Moïse travaille d'arrache-pied afin qu'on y parvienne.
La population haïtienne a toujours affiché une méfiance vis-à-vis de la mission des Nations Unies. Est-ce que les 1275 policiers qui vont rester, vous pensez qu'il va y avoir une bonne cohabitation?
Je crois que c'est de la responsabilité de l'État haïtien et des Nations Unies également de s'assurer que cette collaboration existe entre les policiers qui vont être dépêchés en Haïti et la population. C'est une question d'approche. C'est une question de collaboration et de manière réciproque. Nous espérons que les policiers des Nations Unies se comporteront de manière professionnelle, de manière à être perçus par la population comme des encadreurs et non comme des bourreaux. C'est la responsabilité à la fois de l'État haïtien et des Nations Unies de s'assurer qu'il y ait un très bon accueil qui soit fait aux policiers des Nations Unies.
C'était le porte-parole de la présidence haïtienne, Lucien Jura.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant.
En l'absence d'intervention, les taux de transmission vont de 15 à 45%. Des interventions efficaces permettent toutefois de ramener ces taux à des niveaux inférieurs à 5% selon l'OMS.
Pour en parler, nous recevrons comme invité le docteur Jonathan Kaunda. Il est chef du département de la coopération et du partenariat au programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous dira ce que doivent faire les mères séropositives pour éviter de transmettre le sida à leurs enfants.
Nous écouterons le témoignage de M. Ange Mavoula, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Il nous expliquera les difficultés rencontrées par les femmes enceintes et séropositives.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.